voudrait ordonner ça. On voudrait ordonner cette sorte de chaos. Et on voudrait dire, s'il y a eu telle chose à tel moment, à ce moment-là, il fallait qu'il y ait aussi cette autre chose. Par exemple, puisque ça s'est passé au mois d'août, il fallait qu'il y ait du soleil sur les arbres de Montchartres. Hein? C'est parce que c'était le mois d'août qu'il y avait le soleil. C'est parce que c'était la nuit qu'il y avait la lune. C'est parce que c'était le lendemain de Noël qu'il neigeait, etc. Il y a une autre forme, en somme, d'explication qui n'est pas causale, qui n'est pas scientifique, mais qui rapproche les mythes, qui rapproche les idées l'une de l'autre, et les événements l'un de l'autre. Et qui fait dire, eh bon, ben c'est normal qu'il en soit ainsi, c'est normal qu'il y ait du soleil le jour, qu'il y ait la lune la nuit, qu'il y ait de la neige à Noël, etc. Seulement, dès que vous raisonnez, dès que vous essayez de considérer les choses comme cela, vous êtes amené à tout associer ou dissocier. Et vous dites telle chose est proche de telle autre, puis telle autre sera éloignée de telle autre. C'est souvent dans des périodes comme la nôtre que ça se produit. Il y a 2000 ans, il y a Bolos et d'autres mythologues hellénistiques, macédoniens, grecs, etc. Égyptiens aussi. Et même juifs à l'époque. Beaucoup de mythologues étaient arrivés à établir des listes comme ça de plus en finir pour établir pourquoi il y avait des associations, des alliances entre les animaux, entre certains animaux. Et pourquoi, au contraire, certains animaux n'aimaient pas d'autres animaux. Alors ils avaient des listes sur des pages, sur des volumes. Ils disaient qu'il y avait un lien entre le chêne et le lion, qu'il y avait un lien entre au contraire, une hostilité entre le serpent et le lion, qu'il y avait une hostilité entre l'oiseau et le reptile, qu'il y avait des... Quelquefois, curieusement, l'âne et le scorpion s'aiment bien. Ben, est-ce qu'on ne peut plus le prouver maintenant? Il n'y a pas toujours de scorpion là où il y a des ânes. Bon, mais c'est pour vous dire qu'on peut... On peut faire autre chose, on peut rapprocher des éléments aussi. On peut dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, quand il fait beau, quand c'est le printemps, l'été, il y a le soleil, bon, puis il y a des ordres, puis des rapprochements zodiacaux. Alors on arrivera à dire, bien, par exemple, les Sumériens disaient... Les Sumériens avaient un grand ennemi, c'était la Syrie montante, qui était la Rome, mais 2000 ans avant Rome. Eh bien, quand ils étudiaient la Syrie dans le quartier de la Lune, alors ils disaient quand l'ombre était gagnée sur un quartier de la Lune, ça voulait dire que la Syrie allait être malade. Ça se produisait ou ça ne se produisait pas, hein, bien sûr. Et puis, quelquefois, il y a au contraire, on disait, c'est parce qu'il n'y a pas d'éclipse, c'est parce que la Lune est entière qu'il arrive du malheur à quelqu'un. Il y a toujours des raisons pour dire qu'il arrivera des malheurs. Hein. Mais c'est la même chose, c'est un besoin de rapprocher, là, c'était de rapprocher la Lune et les événements géographiques qui pouvaient arriver en Mésopotamie. C'était ça, jusqu'à une époque très proche, hein, pour parler d'ailleurs, en fait... Ceux qui vont, qui écoutent ou qui lisent l'horoscope du dimanche, ou qui vont voir l'astrologue, c'est bien ce qu'ils pensent. Ils pensent que, puisqu'il y a telle rencontre de planètes et de signes, eh bien, ils vont être malheureux, ou ils vont être heureux, ou ils vont bien se marier, ou ils vont perdre leur sous. Bon. Donc, ça peut être ridicule, ça peut être dérisoire. Mais ça peut être aussi... Ça peut être aussi tellement prouvé, tellement... C'est toujours tellement la même chose, si vous voulez, comme quand je dis quand il fait beau, il y a du soleil, qu'on finit par le croire. On se dit, puisqu'il y a du soleil, on va avoir beau temps. Bon, à la limite, puisqu'à la radio ce matin, on me dit qu'il allait faire qu'il allait pleuvoir, mais c'est qu'il ne pleuvra pas. si on inverse ce mode de raisonnement, parce qu'on peut dire, puisqu'on vous dit ça, il doit se produire le contraire, bien sûr. Et à ce moment-là, il est normal que pour beaucoup de gens, ça soit dérisoire, ça soit une sorte de plaisanterie. Seulement, et là, le mystère tout de même est là. C'est une plaisanterie, ce sont des coïncidences, ce sont des croyances qui animent l'homme depuis au moins 6000 ans, ou même depuis la dernière glaciation, depuis 10 000 ans. Nous le savons. Nous savons qu'en se fondant sur des rapprochements différents, les hommes n'ont jamais cessé de croire qu'il y avait ce qu'on appelle des signes. C'est-à-dire que s'il se produit ceci, ceci est le signe qui va se produire cela. Hein? Si, quelquefois, c'est tellement rentré dans le comportement humain, dans l'habitude, qu'on ne met pas la chose en doute. Je vous donnerai un exemple que vous connaissez tous. Vous avez un enfant de 10 ans doit aller à l'école. Il le faut. Pourquoi il le faut? Parce que c'est comme ça, parce que depuis Cabet, depuis le milieu du siècle dernier, on a dit que l'éducation devait durer au moins 12 ans, donc qu'il fallait mettre les enfants à l'école dès l'âge de 5-6 ans, et qu'il fallait les bourrer pendant 12 ans. Et ça d'abord était créé par un fondateur de secte, Étienne Cabet, qui a créé l'Icarie, dans lequel nous vivons en ce moment aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il un rapport obligatoire entre l'enfant et l'école? C'est tellement bizarre, c'est tellement étrange que vous avez au contraire de grands guides, des saints, et puis des philosophes de l'Inde ou la Chine. Je vous citerai Confucius, c'était pas rien, c'était un des grands sommets de l'humanité, qui disait ne mettez pas les enfants trop jeunes à l'école, il faut d'abord qu'ils apprennent à vivre. C'est-à-dire qu'ils apprennent à jouir, qu'ils apprennent à sentir. Si vous ne sentez pas pendant une période de votre vie, et avant la puberté, c'est le meilleur moment, si vous n'êtes pas libéré de toute contrainte à ce moment-là, pour être justement, vous épanouir physiquement et spirituellement, eh bien, vous perdrez votre vie, vous gâcherez votre vie, vous n'aurez pas eu d'enfant. Et il disait, il faut commencer à s'enseigner très tard. Il faut en réalité être sorti justement de la première enfance pour commencer à, et encore, des gens comme Confucius, quand l'enfant ou l'étudiant était trop jeune, il l'employait à des travaux domestiques, mais il lui donnait des conseils au compte-goutte et il introduisait à ses études, à son école, il n'introduisait que des hommes déjà mûrs. Dans d'autres sectes, c'est allé beaucoup plus loin, chez les Roumains, et puis aussi chez les Cathares, au Moyen-Âge. En réalité, il y avait plusieurs échelons à gravir, mais le premier échelon, c'était la connaissance la plus extérieure et qui ne troublait pas l'âme. Et puis, seulement au deuxième stade, mais il fallait déjà avoir 25-26 ans, on était initié à l'enseignement, pour vous en dire. Enfin, je pourrais accumuler les exemples, enfin, c'est pour vous montrer que même cette chose qui nous semble tellement évidente, il doit y avoir un rapprochement entre l'enfant et l'école, n'est pas du tout unanime, ça n'a pas été du tout unanime au cours des temps. En réalité d'ailleurs, si on peut donner l'origine un peu de cette croyance, et je vous disais Capet, bien sûr, mais ça remonte un peu avant, enfin l'idée que l'adolescent, par exemple, après la puberté, on doit quitter l'école proprement dite pour entrer dans une recherche plus humaine, devenir un artisan, par exemple. Apprendre à faire une table, apprendre à faire un tableau, apprendre à faire de la musique, et devenir utile en grande malacité, eh bien ça commençait beaucoup plus tard, ça commençait en réalité avec déjà l'âge adulte. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé, si vous voulez, il y avait, je ne veux pas dire trop de choses, je ne veux pas vous égarer, mais il faut bien que je donne des exemples. Vous avez dans les tribus dits sauvages, les sauvages Les aborigènes d'Australie, les bambaras d'Afrique, les certains peuples amérindiens. Il n'y a pas ce que nous appelons l'adolescence. Ils ne savent pas ce que c'est que l'adolescence. Celui qui n'est pas un enfant est un homme. Le passage tient en quelques jours, sinon en quelques heures, ça s'appelle l'initiation. Lorsque l'enfant atteint cet âge, et justement, on va le quitter. Jusque-là, il aura joué avec ses camarades dans le village, il n'y a pas d'école. Il aura joué, il aura profité, il aura appris la nature, appris la vie. Et bien, quand il arrivera à cet âge où il va devenir un homme, où il va devenir un adulte, où il va aller à la chasse avec les hommes, où il va siéger dans les meilleurs, enfin, dans les comités qui organisent le village, à ce moment-là, on va, par exemple, pendant 2 jours, l'isoler dans la forêt pour lui apprendre le courage, et puis on lui soufflera de faux rugissements de faux pour l'épouvanter, et pour fortifier, quelquefois, on lui fait mal, on le fouette, etc., selon l'initiation. Mais, je veux dire, il n'y a pas d'adolescence, tout est remplacé, là, en une initiation de quelques heures. Nos sociétés, vous savez, ont développé l'adolescence jusqu'où ? Enfin, disons que l'adolescence commence à... Au Moyen-Âge, ça commençait à 12 ans, la fille était majeure à 12 ans, puis le garçon était à 14. Bon, ben maintenant, c'est à 25 ans, 26 ans, au terme de 20 ans d'études, qu'on peut dire que l'enfant est sorti de l'adolescence. Alors, de cette chose qui n'existait pas, l'adolescence, on a fait presque la moitié de la jeunesse. Vous voyez combien ça peut être fluctuant, les croyances. Mais il y a derrière tout ça quelque chose de très précis. C'est-à-dire que le sauvage qui nie l'adolescence et qui ne croit que dans l'initiation, c'est qu'il croit dans la nature, c'est qu'il croit dans le soleil, c'est qu'il croit dans l'arbre, c'est qu'il croit bon. Alors que l'autre qui a besoin de cette éducation de 100 ans, ben c'est pas de 20 ans, de cette adolescence qui n'en finit pas, celui-là, c'est qu'il croit dans l'amour, c'est qu'il croit dans la justice, c'est qu'il croit dans des mythes tout à fait différents de ceux du sauvage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans notamment ces livres, et puis aussi dans L'homme et les dieux, qui traite davantage des religions et moins des sectes? Ce que j'ai fait dans ces livres, donc jusqu'à ma 50e année, la 60e année même, j'ai simplement accumulé ça, j'ai réuni ça, j'ai dit, ben c'est comme ça, à ce moment-là, on a cru ça. En fait, c'est l'obsession de ceux que j'ai cités, d'Eliade ou de Lévi-Strauss, puis d'autres aussi, comme Kaiowa ou Serge Hutin, etc. Nous avons réuni le plus de faits possibles, de preuves, de traces, de textes, de ruines, pour dire, ben voilà, à ce moment-là, nous savons qu'on croyait ça. Et peut-être que si on fait un catalogue assez grand de ce qu'a cru l'humanité depuis 5 ou 6 000 ans, on va se faire une idée, et on va créer un autre ordre, en quelque sorte. Pas un ordre rationnel, pas l'ordre de dire, bon, il y a eu la division du travail, donc il y a eu ensuite les fratries ou la croyance au Dieu de justice, donc pas ça, pas ça du tout. Mais de dire que ça s'est passé comme ça. Il y a eu l'aube, et puis il y a eu le midi, puis il y a le crépuscule, puis il y a la nuit. Et les choses du crépuscule ne peuvent pas arriver avant les choses de l'après-midi. Elles viendront après, mais elles ne viendront pas avant. Les choses de l'âge adulte viendront après, les choses de la jeunesse, pas avant. Etc. Alors,